à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.
Salam alaikum, ya chers auditeurs. Nous parlions du septième conseil pour devenir un saint. Certains succomberont fascinés par les lumières d'une vie facile et sans croix. Suivre le Christ est difficile, mais remplit l'âme de bonheur. Il n'y a pas de plus grande joie que celle de prendre la croix à la suite de Jésus. Quand on aime le Christ, alors la charge devient douce et la croix légère, parce que l'amour supporte tout. Ne te décourage pas quand tu tombes, relève-toi avec humilité et renouvelle ton désir de le suivre. Dieu désire que nous connaissions la faiblesse de notre amour afin que nous sentions le besoin d'avoir recours à lui. Il importe peu que tu tombes 1000 fois si tu aimes la lutte et non la chute. C'est pour cette raison que le désespoir n'a aucun sens, car l'effort d'une lutte continuelle a plus de valeur aux yeux du Christ que la possession paisible et facile de la victoire. Petite conclusion pour ceux qui se découragent trop facilement, Dieu nous choisit malgré nos défauts et peut-être même à cause de nos défauts. Car plus le serviteur se sait inutile, moins il risque de se prendre trop au sérieux. Je vous l'ai déjà dit, on doit être sérieux sans se prendre au sérieux. La prochaine fois que tu te sens inutile pour réaliser la mission que Dieu t'a confiée, souviens-toi que Noé était un ivrogne, Abraham était trop vieux, Jacob était menteur, Léa était laide, Joseph avait été abusé, Moïse était bègue, Gédéon avait peur, Samson avait les longs cheveux et il était un coureur de jupons. Rahab était prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David était un assassin. Élie était suicidaire. Isaïe a prêché tout nu. Jonas a fui de Dieu. Naomi était une veuve. Job s'est ruiné. Jean-Baptiste mangeait des insectes. Pierre a renié le Christ. Marie-Madeleine a eu 7 maris. Les disciples se sont endormis en priant. Marthe s'est inquiétée au sujet de tout. La Samaritaine était divorcée plus d'une fois. Zachée était trop petit. Et Paul était trop religieux. Timothée avait un ulcère. Et Lazare était mort. Tu comprends que tu n'as aucune excuse maintenant pour t'engager. Choisis de devenir un saint, une sainte. Dieu saura utiliser ton potentiel et tes limites. Du reste, tu n'es pas le message. Tu es le messager ou la messagère. On aurait pu continuer la liste en disant au Liban, Abouna Philippe a une Mercedes 500, Sœur Sophie a une Jeep Cruiser, Père Georges mange au crêpouet avec les jolies filles. Qu'importe tout cela? Ce qui compte, c'est le regard de l'amour. Changeons de regard. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime, sans regard pharisien, réductible. Plongeons dans cet infini de l'amour de Dieu. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Devenons enfin chrétiens. Et brûlons de ce feu qu'allume l'Esprit-Saint, si on le désire et si on s'ouvre à son action. Seul compte l'amour. On ne s'aime plus et là est la racine du mal. Ouvrons notre cœur à notre voisin, à celui qui est le plus oublié. Il est peut-être tout proche de nous. Et puis je crois que l'urgence est la conversion de nous, les femmes. La femme a ce terrible pouvoir de faire d'un homme un bandit ou un saint. Il faut choisir notre modèle, ou la femme démone, tentatrice et destructrice, ou la très sainte Vierge Marie, femme rédemptrice. Bien sûr, vous avez toutes choisi d'être sur les traces de Marie de Nazareth, car elle seule donne la vie. L'autre offre la mort et maintient l'homme en esclavage au lieu de le conduire à sa liberté royale et à la paix. J'ai envie de parler de la Vierge Marie maintenant en tant que maman. Marie fut une maman comme toutes les mamans, au sens où elle connut, comme toute mère, le bonheur d'enfanter, les joies de voir grandir et croître en grâce et en sagesse son enfant, d'en recevoir l'affection et la tendresse, au sens aussi où elle connut les soucis quotidiens de toute mère, avec toutes sortes d'occupations, de ménage, de cuisine, de couture. Marie faisait elle-même les tuniques des siens et participait aux activités des femmes du bourg de Nazareth. Marie, comme toute mère, a ressenti l'angoisse pour son enfant, que l'on songe entre autres à ces 3 jours où elle et Joseph ont cherché leur fils sur la route du retour de Jérusalem, alors que Jésus était resté au milieu des docteurs du temple. Comme toute maman, elle a connu la peine de voir son fils, en grandissant, quitter peu à peu la maison, jusqu'au jour fameux où il prit son sac et commença définitivement sa vie publique. Marie ne fut pas seulement une maman parmi les mamans, elle fut la mère par excellence. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Luc 1,48. Ensuite, parce que durant toute l'enfance et la jeunesse de Jésus, elle eut à éduquer celui-là même qui était la sagesse incarnée. Ainsi, aux joies de l'éducation auprès de son époux Joseph, se sont ajoutées constamment celles de la contemplation quotidienne du Verbe incarné, livré humblement à l'attention prévenante du saint foyer. Elle fut la mère par excellence, encore parce qu'elle ne retint jamais son fils, dont elle savait pourtant la dramatique destinée. En mère très aimante, Marie aurait pu tenter d'éviter la voie douloureuse qui lui avait été annoncée, entre autres par le vieillard Siméon, lors de la présentation au temple, lorsque ce dernier avait prédit, je cite, « un glaive te transpercera le cœur ». Luc 2,35. En outre, la Vierge connaissait les Écritures et savait les prophéties d'Isaïe à propos du Messie, celui qui serait l'agneau immolé, livré pour le salut du monde. Or, Marie n'a pas cherché à détourner son fils du chemin des affaires du Père. Elle fut le contraire d'une mère possessive, un modèle de généreuse abnégation maternelle. Enfin, Marie fut mère entre les mères parce qu'au cœur de sa souffrance, pourtant indicible, elle a non seulement accepté de donner son fils, mais encore, don suprême, alors même que les hommes lui prenaient son enfant, elle accepta de devenir la mère des hommes. « Voici ta mère, » dit Jésus à l'apôtre Jean, présent au pied de la croix. « Voici ton fils, » dit le Sauveur à Marie, aux côtés de Jean. Et Marie, écrasée de douleur, eut la force de dire une nouvelle fois « Fiat, oui, que ta volonté soit faite, Seigneur, oui !» La famille est donc une école de sainteté. C'est là que l'enfant trouve les exemples qu'il suivra toute sa vie. La prière et la sanctification de la famille sont essentielles pour que chacun puisse parvenir à son but ultime, le ciel. Notons qu'aujourd'hui, Dieu est chassé de beaucoup de cœurs, de nombreuses familles, des institutions officielles, des associations, des organisations internationales et même de certains pays. Toute famille peut rendre au Sacré-Cœur, Seigneur et Maître de toutes choses, la place qui lui revient, de droit. tant dans la vie individuelle et privée que dans la vie sociale et politique, la première place. Pour cela, les papes ont conseillé d'introniser le Sacré-Cœur de Jésus dans les maisons. Le Christ lui-même l'a demandé à sainte Marguerite Marie dans ces termes, je le cite, « Je mettrai la paix dans leur foyer, je les bénirai dans toutes leurs entreprises, je bénirai spécialement les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. » L'intronisation du Sacré-Cœur est une cérémonie solennelle que le prêtre peut faire après la bénédiction de la maison, toute la famille étant rassemblée. Chacun s'engage à mener une vie foncièrement chrétienne, à accomplir fidèlement tous ses devoirs de chrétien, de catholique. Remarquons que l'Église entoure d'honneur ce qui touche à la famille et à la vie quotidienne des chrétiens. Elle a créé des rites et des prières pour solenniser et sanctifier les fiançailles, le mariage, la maternité, les anniversaires familiaux, les maladies, pour bénir les enfants. Rien de ce qui touche à l'amour humain n'est vulgaire ni profane. Tout intéresse le royaume de Dieu. Tout par la volonté du Christ devient ainsi un instrument de sainteté. Prions.
Égyptienne, que de déserts traversés avant d'aimer, tant de détours, mille allées sans retour avant d'oser, et sur les rives de Palestine, le vent souffle ton nom. Marie, quand tu pries, c'est l'univers qui danse, il chante de ton silence. Oh Marie, fille d'Orient. Ivre d'amour, tu partis, toi la païenne. Tu t'es cachée dans le creux d'un rocher pour prier. Et sur les montagnes brûlées, passé le Jourdain, Ils t'attendaient, Marie, pour aimer plus loin que le corps, pour aimer plus fort que la mort. Oh Marie, fille d'Orient. Sœur de solitude et de sagesse, nourrie de l'art de ta vie, pécheresse pardonnée, livrée au vent, au soleil, aux éléments, tu t'élevas, Marie. Au-dessus des eaux dans les airs, retrouvons l'unique prière. Ô Marie l'Égyptienne.
La vie terrestre et le Liban où nous vivons, le monde où nous vivons, ont un sens que Dieu nous a révélé, je le cite. Que vous mangiez, que vous buviez ou toute autre chose que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10:31. La terre est le chantier où nous devons, par notre activité quotidienne sous toutes ses formes, travailler à étendre le royaume de Dieu. La foi doit tout éclairer. Mettons-nous sous l'autorité et la conduite du Christ et de sa sainte maman. Et qu'avant de coucher les enfants, les parents leur fassent le signe de la croix sur le front. Et ainsi, Dieu sera présent chaque jour en la maison. Pensons aussi aux parents bienheureux de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, Louis et Zélie Martin. Que désirer de plus haut, sinon la Sainte Famille. La Sainte Famille vivait du travail de ses mains. Chacun pourvoyait aux nécessités quotidiennes. Joseph exerçait son métier de charpentier et Jésus partagera son labeur. Marie remplissait ses devoirs de maison. Elle préparait les repas que Joseph et Jésus appréciaient partager avec elle après le travail. Elle veillait à l'ordre, à la propreté du logis. Elle faisait les vêtements de la famille. Jésus, par sa vie active et discrète dans l'atelier de Joseph, a élevé et ennobli le travail manuel, qui est le lot du plus grand nombre des hommes. En prenant pour lui et ses parents la simple situation d'artisan, Jésus a grandi et sanctifié la condition des classes laborieuses qui peuvent chercher auprès de Jésus, Joseph et Marie un encouragement à la pratique des nobles vertus d'une vie simple et heureuse. Telle apparaît la Sainte Famille sous l'humble toit de Nazareth, véritable modèle de cette vie familiale avec ses relations mutuelles et ses beautés ineffables qui est la sphère d'action de millions de fidèles dans le monde, où le mari gouverne comme le faisait Joseph, tandis que la femme amoureusement obéit comme le faisait Marie, où les parents veillent sur l'éducation de leurs enfants et où ceux-ci obéissent comme Jésus. La famille chrétienne, disait un auteur, est comme l'antichambre du paradis. Ne soyez pas étonné qu'il soit l'objet des attaques des ennemis du genre humain. Mais la nation libanaise pourra éviter la guerre dès que la famille va se reconstruire en profondeur en imitation de la Sainte Famille. La destruction de la famille, sa division et sa dissolution participent à la destruction de la nation libanaise qui n'est que la somme des familles vivant au Liban. Une famille saine et sainte construit un pays sain et souverain. La lumière, la paix d'un foyer qui prie, Dieu, tout cela est dérivé de la vie menée par Joseph, Jésus et Marie dans la sainte maison de Nazareth. Le choix est clair pour nous au Liban. Ou la camaraderie dans l'antéchrist, ou la fraternité dans le Christ. Les chrétiens n'ont pas toujours l'air de comprendre à quel point la période que nous vivons est critique pour eux. L'histoire ne les intéresse pas vraiment assez. Quelle tête ferions-nous en ce moment si Jeanne d'Arc nous arrivait? Quel accueil serions-nous prêts à lui faire? Eh bien, Jeanne d'Arc vient au Liban redire que le ciel n'admet pas que les choses sur la terre du Liban aillent aussi mal. Elle apporte toujours son instruction claire et précise pour sauver le Liban. Le langage de Jeanne d'Arc est toujours net. De la part des anges et des saints, Jeanne d'Arc vient redire que le plan politique à tel moment de l'histoire du Liban n'est plus séparable du plan religieux. C'est une époque mystérieuse où l'on dirait que le temporel recouvre le spirituel. Ainsi, des éclipses quand la lune passe devant le soleil. Nous sommes dans une période analogue au Liban. Mais tout le monde continue à dormir dans une espèce de torpeur. Le bien devient le mal. Le mal devient le bien. L'erreur devient la vérité. La vérité devient l'erreur. On croit que tout finit par s'arranger entre Dieu et le diable, sans les chrétiens, et que le royaume du Christ, roi, n'est pas de ce monde. On croit aussi qu'on peut dormir encore un peu, chers chrétiens, mes frères, et qu'il sera toujours temps de se réveiller à Gethsémani quand le Christ nous dira « Allons, cela suffit, levons-nous, il est trop tard ». Ce que les chrétiens ne voient pas distinctement, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est profane. Le religieux est partout. Nous vivons au Liban un drame religieux, bien plus encore que politique. Sainte Jeanne d'Arc vous le montrerait, lance ou bannière en main, et elle vous dirait de donner immédiatement le pays du Liban en commande au roi des cieux, de faire sacrer la cause du Liban et de ne jamais renoncer à la justice et à la vérité. Elle nous ferait voir, Jeanne d'Arc, que c'est encore du royaume de Dieu qu'il s'agit, dans la libération du Liban. Que les chrétiens et surtout les catholiques l'entendent bien. C'est leur heure qui bourdonne aux oreilles. Et avec eux, ceux qui attendent la même justice que nous, qui ne renoncent pas plus que nous à la vérité que nous appelons Jésus-Christ. C'est l'heure d'une communion immense, c'est l'heure de la clarté contre la confusion, c'est l'heure d'un oui-oui ou d'un non-non. L'heure est grave, il faut la saisir, revenons à Dieu et recevons les grâces de vie, de lumière et de paix du Sacré-Cœur vivant par les mains immaculées de la Très-Sainte Vierge Marie. Oui, c'est la solution unique pour être en paix et pour être artisan de la paix au Liban et au-delà. Qu'est-ce que notre civilisation à vol d'aigle? Notre civilisation est une immense entreprise de publicité commandée par l'accélération des circuits économique. On ne peut espérer aucune solution de cette accélération. Le cosmos est bon à consommer jusqu'à l'indigestion, le désespoir et la dépression chronique. C'est le sentiment vulgaire contre lequel nous met en garde la sagesse évangélique, antique et orientale. Elle nous répète que le monde pris comme objet de consommation, nous déçoit, nous aliène et nous rend esclaves, nous asservit. C'est pourquoi, chers amis libanais, quittons l'artificiel et le paraître pour devenir enfin des êtres de communion et d'amour véritable, des pierres vivantes de cette nation libanaise que l'on veut tous souveraine. Sainte semaine. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.